Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
I'm the baddest motherfucker on the planet.
Hey, je vous invite quoi?
Charles Chevalier.
I am the greatest.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver, c'est le RMC Fighter Club. Beaucoup d'actualités en ce lundi avec un gros week-end de sport de combat. On va débriefer un peu de tout ça de manière générale et on va faire un gros focus sur l'UFC 327 avec la folie de ce combat entre Ulberg et Prochaska. On va vous en parler ainsi que du reste de la carte. Baba, le pilier du RMC Fighter Club, est à mes côtés comme d'habitude. Salut Baba.
Salut Charles, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, ça va. Bah écoute, bien récupéré d'une belle nuit, surtout d'un gros week-end. Il y avait vraiment beaucoup de bagarres.
Gros week-end. Alors nous on s'est couché vers 7-8 heures du matin après l'UFC, ouais. Mais il y en a qui se réveillaient vers 6 heures pour le marathon. C'est
exactement
la folie du marathon. Là dimanche, moi, en sortant des studios à RMC Sport, c'était pas très loin. Il y avait plein d'installations, plein de trucs, et tout le monde parle du marathon, c'est un truc de fou. T'étais pas sur le marathon, toi?
Ah, j'étais pas du tout sur le marathon. Par contre, ils m'ont forcé à faire pas mal de détours pour rentrer chez moi, vu que tout était fermé. Ouais. Et voilà, merci Yacine de m'avoir prévenu parce que j'avais oublié en plus.
Ouais.
Mais je suis pas rentré facilement. Ouais.
J'ai vu que d'ailleurs, le marathon, ils envisageaient de le faire sur le périph. Donc la prochaine fois, plutôt que de prendre le périph, tu pourras peut-être passer dans Paris.
Bah, ça sera bien.
Voilà, c'est les petites news marathon aussi de ce week-end. Et bravo à toutes celles et ceux qui étaient sur le marathon, qui l'ont fait, qui ont fait des bons chronos ou pas. En tout cas, déjà le fait de s'aligner sur un 42 km 195, c'est solide.
C'est fort. Un gros big up à la team RMC Running, le podcast. Ils l'ont fait, ils ont couru le marathon en faisant un podcast.
Ouais, exactement.
Franchement, un gros big up à eux. Allez écouter le podcast parce que c'est génial. Et surtout, un énorme big up à Max Abolin qui a fait cette course alors que voilà, il a été opéré du cœur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est juste énorme et très inspirant, et je tire un gros coup de chapeau.
Du coup, pas d'énorme big up pour Arthur Robert qui est le producteur
Il est juste assis là, lui.
Il est assis.
Ouais.
Bon allez, pour 2027 allez, peut-être, pour 2027 Marathon de Paris, Arthur, on ira ensemble, tu veux, avec Baba. On se lance le défi. Par contre, faire un podcast combat en faisant un combat, ça va être compliqué quand même. Tu crois que c'est possible?
Essayons.
On peut essayer.
C'est un challenge qu'on peut faire.
Faut pas faire un match-up pas trop compliqué alors. Allez, c'est parti pour le RMC Fighter Club. Débrief de tout ce qui s'est passé en combat ce week-end. Bon bah, il y a eu beaucoup de choses, on l'a dit, Hexagone MMA, on va vous proposer un épisode spécial sur le Hexagone MMA 43 qui était au Zénith de Paris avec un invité qu'on aura mercredi normalement.
Un nouveau champion en plus, on aura une ceinture sur la table, donc ouais, il y aura Bafo Degassama avec nous, manquez pas ça mercredi.
Voilà, manquez pas ça, il s'est passé beaucoup de choses au Hexagone MMA, on pourra aussi commencer à envisager un petit peu ce qui va se passer à Bordeaux, puis ce qui va se passer aussi à Lyon, Paul Dena, Anzor, enfin c'est vrai qu'il y a pas mal de hype en ce moment autour de Hexagone MMA, même si le combat principal entre l'étau du Chloé Bouafia, il s'est mal terminé avec une blessure de Bouafia qui est arrivée très très tôt dans le combat.
Ouais.
D'ailleurs, c'était peut-être un clin d'œil ce qui s'est passé sur le main event de l'UFC 327, mais avec finalement un Prochaska qui a rendu la fin de l'UFC 327 plus intéressante que celle de l'Hexagone MMA. Mais bon, en tout cas, on va en parler tout à l'heure sur Ulberg Prochaska, mais ça fait peut-être partie aussi des prépas, tu vois, c'est quoi les cuttings, enfin il y a des blessures qui arrivent aussi de manière assez inattendue pendant des combats qui peuvent être le fruit d'une préparation sur lesquelles il faut se poser des questions.
Ouais, c'est vrai que la préparation en MMA, on oublie à quel point elle peut être dure, à quel point elle peut être brutale pour le corps. La plupart des combattants arrivent dans la cage blessés. Et faut faire un choix de combattre ou de ne pas combattre. Apparemment, la blessure était préexistante, donc selon le manager Younes, le choix a été fait de combattre. Donc ça peut être discutable pour certains comme pour d'autres. Comme tu l'as dit, dans la même nuit, on a eu les deux cas de figure. On a eu celui qui perd sur la blessure, on a eu celui qui gagne malgré la blessure. Donc écoute, ça fait partie de l'histoire du combat, c'est comme ça.
Voilà pour Hexagone MMA, donc rendez-vous mercredi sur l'épisode du mercredi avec Bafo Degassama qui sera notre invité si tout va bien, et on vous débriefera du coup plus en détail, plus en longueur cet Hexagone MMA qui avait lieu au Zénith de Paris samedi soir, juste avant le début de l'UFC, avec une continuité d'ailleurs qui était sur RMC Sport. On vous a fait vivre l'intégralité de cette soirée qui s'est terminée après l'UFC 327. Il y a eu un peu de boxe anglaise aussi, Baba, avec une victoire de Tyson Fury. Moi je trouve que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, hein. Tu vois ce que je veux dire, les combats de Tyson Fury avant, tout le monde le savait, mine de rien, qu'il y avait un combat de Tyson Fury, même si c'était pas face à des adversaires forcément très connus. Là, je trouve que c'est passé un petit peu en dessous des radars. Malgré tout, Tyson Fury est allé gagner à la décision.
Ouais, c'est vrai que c'était noyé au milieu d'un énorme week-end de bagarre pour les fans du monde entier, mais pour nous, fans français en plus, parce qu'on avait l'Hexagone, etc. Donc, Donc ouais, c'est vrai que ça avait l'air un peu plus confidentiel quand j'en parlais avec certains. Et en fait, quand j'ai écrit l'article sur Tyson Fury qui est paru samedi, on m'a dit mais il combat ce week-end. Et j'ai dit ouais, en fait, il combat ce week-end. Donc c'est à ce point-là que le combat était peut-être pas intégré par les fans. Je sais pas si les gens en ont marre de Tyson Fury, si on se dit que c'est toujours la même chose. L'adversaire aussi, Arslan Makhmoudov, sans lui manquer de respect, bah c'est pas l'adversaire que les gens voudraient voir affronter Fury. On veut du Joshua, on veut du Wilder, on veut même certains veulent encore un combat contre Usyk. Donc ouais, c'est vrai que ça donnait pas l'impression d'être un big fight d'une big star de la boxe.
En tout cas, je me suis connecté sur Netflix hier soir et bon, ça apparaissait dans les séries. Ça te met toujours top 10 des séries aujourd'hui, des films aujourd'hui. Et le Fury Makhmoudov, il était 3e dans les séries visualisées dans la journée. Donc est-ce que c'est 3e dans le monde ? Après, c'est aussi un événement, c'est ce que fait Netflix aussi maintenant, c'est ce qui sera le cas avec la carte MVP en MMA, mais bon, c'est sûr que ça réunit du monde, donc ce serait aussi inquiétant que ce soit même pas dans le top 10 de ce qui a été le plus visionné dans la journée, parce que c'est événementiel, c'est sur une journée. Je pense qu'il y a un peu de replay derrière, il y a un peu de visualisation qui est en après-coup, mais bon, je pense que si tu capitalises pas à ce moment-là, ce serait encore plus inquiétant que ce soit dans le classement.
Ouais, voilà, ce serait bizarre, là, du coup, Netflix reculerait à mon avis dans ce business, ce serait pas venu pour ça. Ouais. Maintenant, je peux pas te garantir que les fans qui ont cliqué sur le combat soient restés jusqu'au bout, parce que pour nous, fans de boxe et analystes de la boxe, on aime bien ce genre de combat, parce que Fury, il a exprimé quand même toute sa maestria dans le combat. On l'a revu certaines fois, on a revu son génie même certaines fois dans le combat, clairement, il a dominé de la tête et des épaules. Mais pour le fan, on va dire, l'abonné Netflix qui suit pas spécialement la boxe, il a pas vu des feux d'artifice, quoi. Il a pas vu des KO, il a pas vu des knockdowns, donc peut-être qu'il est pas spécialement resté très longtemps.
Et puis est-ce que on se dit que Tyson Fury est encore ce qui se fait de mieux en boxe anglaise ou pas? Moi, je sais pas, je me dis que depuis que Usyk est arrivé et qu'il a tout défoncé. Tu sais, quand on disait c'est bon, on vit un nouvel âge d'or de chez les poids lourds, Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder à l'époque, tu vois, est-ce que ça représente encore ce qui se fait de mieux en boxe anglaise, Tyson Fury, pour les gens, d'après toi?
Pour les gens, moi je pense que pour les gens, ils l'ont encore très haut. Ouais. J'ai l'impression qu'ils l'ont encore très très haut et qu'ils voient certainement Usyk. Il voit enfin ce qu'on a vu pendant des années, il voit la grandeur du Zik, et c'est très bien. Mais je pense qu'on le voit encore comme un très grand combattant, enfin surtout je pense qu'on le voit encore comme un combattant qu'on voudrait voir, pour les fans de boxe en tout cas. Quand tu dis Fury, on veut quand même se brancher, on veut quand même essayer d'aller regarder. C'est plus le fan lambda, entre guillemets, ce qu'on appelle casual aujourd'hui. Je sais pas trop si Fury leur apparaît comme la figure du champion poids lourd actuel, tu vois. Je sais pas s'ils en ont une actuellement en tête d'ailleurs, si je demande au grand public. Je sais pas trop.
Le truc, c'est que pour moi, Usyk, il n'est pas grand public. Donc, du coup, la figure qui s'imposerait comme évidente aujourd'hui pour le grand public, comme elle n'est pas pour moi très grand public, tu vois, là où Joshua Fury, c'est connu de tout le monde, quasiment. Ouais. Usyk, tu vas demander à quelqu'un entre guillemets lambda qui suit un peu le sport dans la rue, etc. Il va dire ah peut-être que machin, mais il va pas te dire que il va pas te donner le pedigree du mec et savoir que c'est un boxeur de fou furieux.
Je pense pas.
C'est là où peut-être qu'ils ont encore une place qui est pas trop mal les Fury Joshua. Et justement, il y a eu une sorte de call out en fait de Fury. Alors est-ce que ce sera un combat qui se ferait comme d'hab 10 ans trop tard? C'est la question qu'on pourrait se poser. C'est des questions.
Est-ce que toi tu veux voir le combat, toi?
Moi, franchement, oui.
Quand même.
Moi, oui. Quand même. Toi aussi ?
Ouais, bien sûr.
Ouais. Donc, en gros, on raconte ce qui s'est passé, mais à la fin du combat, sur le discours d'après-fight, Anthony Joshua était front ring, il était juste devant le ring, etc. Et du coup, de manière assez en mode Tyson Fury, avec toute sa bonhomie, etc., il dit qu'en gros, ce serait bien de combattre contre Anthony Joshua. Et moi, j'ai été un peu interrogé sur le body language, en fait, d'Anthony Joshua qui était à côté. Alors, on sait, moi maintenant, là, dès que je vois des images d'Anthony Joshua, j'arrive pas à dissocier ce qu'il a vécu récemment.
Exactement, c'est dur.
Cet accident de voiture au Nigeria, ces deux potes qui sont morts sincèrement, ça me donne des frissons là en en parlant. Tu vois, je me dis que en fait, on continue à voir le mec qui participe à des événements médiatiques, qui assiste à des combats. C'est pas la première fois qu'il était en tant que spectateur sur un événement depuis qu'il a eu l'accident. Mais je me dis ce que ce mec a vécu très récemment, c'est un truc de fou. vivre ce qu'il a vécu, c'est traumatisant pour n'importe quelle personne. Évidemment. Et ça l'est même si t'es un boxeur ultra richissime, ultra connu et que t'es un poids lourd, t'es bien costaud, c'est quelque chose dont il faut se relever. Donc en fait, dès que je le vois, j'ai envie de croire en la sincérité de tout ce qu'il fait maintenant. J'ai une image qui a un petit peu changé aussi de lui.
Bah, déjà, c'est normal de le vivre comme ça. Encore une fois, il a perdu. On a tous vécu ses pertes. En plus, on parle de gens avec qui il est ami depuis toujours. Et en plus, c'est des gens qui font partie de son staff. Donc, ça veut dire que même professionnellement, quand tu parles d'Anthony Joshua, tu sais que la prochaine fois qu'il sera dans le ring, et pour la première fois, je crois, depuis ses débuts, ou en tout cas depuis qu'il est devenu aussi connu que ça, ces deux gars-là ne seront pas avec lui. Parce qu'ils ont été là, ils ont été de toutes les batailles. Donc, pour lui, ce sera quelque chose. Et ouais, je pense que ce sera très émouvant le jour où il devra remonter sur le ring et qu'ils ne seront pas là, ces deux gars-là. Ensuite, Joshua, tu peux dire ce que tu veux du mec. Déjà, il a pris tous les mecs qu'il pouvait dans sa génération. Il a pris tout le monde. Il est parti prendre des Bourbiers, il a pris Andy Ruiz, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été connu défavorablement aux États-Unis pendant pas mal de temps, parce qu'il a pris, un risque, il a pris un Bourbier, ça a pas payé. Il a pris Usyk deux fois, il a pris Usyk, alors qu'il y a plein d'autres champions qui l'ont esquivé. Ça arrive tout le temps dans les autres catégories de poids. Tu vois le Bourbier arriver, tu dis « Ah non, certainement pas, je vais faire autre chose, je vais rendre vacante ma ceinture, enfin je vais me débrouiller pour pas l'affronter. » Lui, il a pris, il l'a repris derrière. C'est ce qui a forcé Fury à le prendre derrière, d'ailleurs, tu vois. Moi, Joshua, il m'a toujours paru quelqu'un d'honnête dans sa manière de traiter le business, d'essayer de prendre les gars le plus possible. Je l'ai vu call out Wilder pendant des années, je l'ai vu call out Fury pendant des années, etc. Mmh. Maintenant, on ne sait pas trop ce qui se passe en coulisses. Ça peut être un peu plus difficile de faire les combats. Je ne te dis pas qu'il n'a pas sa part de responsabilité dans certains combats qui n'ont pas été faits. Mais ce que tu dis, qui te paraît, tu vois, sincère dans sa démarche, c'est quelque chose que j'ai toujours perçu. Encore plus aujourd'hui, évidemment, avec ce qui s'est passé.
T'as toujours eu cette image à lui.
Voilà. Donc quand je le vois affalé là, sur sa chaise, en train de subir le call-out de Fury, qui lui, pour le coup, soyons honnêtes, est exactement l'inverse. Ouais. C'est quelqu'un à qui tu ne peux pas faire confiance. Quelqu'un qui a beaucoup call-out sans faire les choses qu'il fallait derrière, qui a pris 5 retraites différentes, dont certaines, alors qu'il y avait des combats qui étaient enclenchés. On n'a jamais eu la revanche contre Vladimir Klitschko parce qu'il a pris sa retraite. N'oublions pas, en fait. Klitschko, il était là, il était prêt. Il y a eu une conférence de presse, il a dit « je me retire ». Certes, il a eu des problèmes mentaux, etc., des problèmes de drogue. Attention, il y a des circonstances atténuantes. En tout cas, ce sont les faits. Derrière, il y a eu Usyk, il a beaucoup fait galérer Usyk, jusqu'à ce qu'il n'y a plus le choix de faire le combat, parce que tout le monde lui disait « mais t'es un canard, qu'est-ce que tu fais en fait, faut y aller ». Et Joshua, la call-out, et on est factuel, j'ai été vérifié. Allez regarder, tapez Fury Joshua sur Google, vous allez voir le nombre de fois que Joshua a voulu faire le combat. Et Fury, il y avait un petit truc, une excuse, je sais pas, je vais faire ça, ou je dois faire ma trilogie contre Wilder, etc. Donc, je comprends. Moi, je comprends la position de Joshua. Je comprends parfaitement sa position de dire, c'est pas toi le boss ici. Ouais. C'est pas toi qui contrôle ce que je vais faire. Ouais. C'est pas toi qui contrôle ma carrière. Donc, on fera le combat quand j'ai envie de le faire, et tu le feras selon mes termes.
Ouais, mais c'est... Quel foin tu pourrais faire si tu faisais ce combat-là, là je crois que c'était au stade de Tottenham.
Tottenham.
Donc tu remplis encore un stade pour un adversaire que personne ne connaît.
Juste sur son nom.
Tu vois ce que je veux dire, juste sur son nom. Donc si tu arrives à faire le Joshua Fury, ça resterait un truc de fou. Ouais. Et que ce soit toi et moi et n'importe qui suit la boxe de près ou de loin, celui-là, je pense qu'il est premier sur Netflix, si ça se fait sur Netflix
à l'instant. Donc, c'est inévitable. Juste les fans anglais vont faire en sorte que ce soit top tendance monde sur Netflix, sur ce que tu veux, clairement.
Après, quand j'entendais ce que tu récitais, ce que tu racontais de Tyson Fury, je me dis c'est vraiment le Conor McGregor de la boxe, en fait. C'est quand tu parlais de call-out dans le vent, quand tu parlais de fausse retraite, quand tu parlais de problèmes mentaux, quand tu parlais de problèmes d'hygiène extra-sportive, etc. C'est fou le nombre de points communs qu'il y a entre Conor et Fury au final.
Ah bien sûr, ils ont emprunté le même chemin, clairement. Sauf que Fury, lui, il est revenu et j'ai un énorme respect pour son retour et la shape dans laquelle il était dans le combat, dans les deux combats contre Usyk d'ailleurs, ce qu'il a été capable de proposer, j'ai un énorme respect pour ça. Il y a pas de souci, c'est te montre à quel point c'est un boxeur absolument exceptionnel, c'est un génie de la boxe, je dirais toujours ce mec. Mais voilà, j'ai un peu plus de sympathie pour Joshua, pas par rapport à ce qui lui est arrivé, mais dans ce sujet précis, pour avoir suivi la chose de très près. Ouais, Fury, puis, il essaie de rentrer dans la tête des fans pour dire ah, regardez, c'est pas moi, c'est lui le lâche.
Ouais.
Bah non, j'achète pas.
De toute façon, Joshua, je pense que même hors combat, hors période de combat, il n'y a pas un moment où tu l'as vu hors shape.
Ah, ça n'existe pas, lui.
C'est, il a une shape. Et donc, à mon avis, il y a un fil qui se tire comme ça, qui vient regrouper pas mal de choses.
Ouais.
Et sur ce fil-là, bah, t'as l'hygiène, t'as aussi du coup le. Enfin, c'est ça va avec. Je veux dire, l'hygiène qu'il a dans sa vie, et quand tu vois la shape qu'il a tout le temps, et bah, c'est un truc qu'il a aussi appliqué dans ses call-outs, dans sa carrière, dans la manière dont il l'a construite. Donc, c'est tout ça semble se tenir. Et à l'inverse, Tyson Fury, lui, il y a des hauts et des bas, et c'est le cas aussi dans ses relations avec les autres boxeurs, et ses relations avec ses managers et compagnie. C'est un personnage particulier. Mais ce que j'ai envie de leur donner quand même à Conor et à Fury, à mon avis, c'est aussi ça qui a fait leur réussite au niveau médiatique, c'est que c'est moyennement, alors sur Conor ça l'est plus depuis quelques années, mais c'est moyennement leur personnage est vraiment fou.
Oui.
C'est pas, c'est pas des personnages
ah
français.
Non, pas. Là où contrairement à quelqu'un dont on va parler tout à l'heure.
J'allais faire la transition à la fin pour te lancer là-dessus avec Josh Okit, mais en l'occurrence. C'est des mecs vraiment fous pour moi. Quand ils prennent leur téléphone pour call out quelqu'un, il n'y avait pas trop, surtout au début, je pense qu'il n'y avait pas trop de genre, attends, je vais call out là, donc peut-être que machin. C'était genre, j'ai envie de le défoncer maintenant. Mais le lendemain matin, tu te réveilles dans un autre état d'esprit et tu as moins envie de faire ce combat.
Exactement. Moi, non, c'est leur personnage. C'est des mecs qui m'ont fait rigoler, les deux, l'un ou l'autre.
Ah ouais,
et qui m'ont fait aussi, qui m'ont aussi énervé par certaines de leurs déclarations, surtout McGregor et sur ses comportements. Tu peux rigoler, mais ensuite, très vite, il a arrêté de nous faire rigoler, et même au-delà de ça. Mais quand Conor, il vanne Fiber, tu sens que c'est très naturel. Tu vois, Fury, c'est la même chose. Quand il va déguisé en Batman dans une conférence de presse, tu rigoles. Parce que le mec, il est taré.
En vrai, le Conor Prime, il était aussi prime dans la cage qu'il l'était en dehors de la cage.
Il était très fort, il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'il était comme ça.
Mais là où il était très fort, c'était les conférences de presse.
Bah oui.
Plus qu'en dehors, sur d'autres trucs, etc. Les conférences de presse. La conférence de presse qui est faite dans un truc un peu bas de plafond, là, avec Nate Diaz, où il ne veut pas lancer les trucs, etc. Il y a tous les Crips qui sont en train, enfin je sais plus, c'est Crips ou Blood d'ailleurs, il y a tous les gars qui font ça, c'est exceptionnel. Et les conférences de presse avec Alvarez et tout, c'est exceptionnel.
Tu peux rien dire. Et puis surtout, la répartie, c'est pas quelque chose que tu vas aller réviser avant ta conférence de presse, contrairement à Covington, enfin des mecs comme ça, tu vois. La répartie, ces mecs là ils l'ont et ils l'auront toujours, et c'est pour ça que des fois t'as envie de les voir.
Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, c'était une grosse époque en tout cas, hein, tout ça.
Ouais,
fin des années 2010 avec Conor notamment. Et puis il y avait moins de garde-fous aussi. Il y avait plus de choses encore possibles. Même Dana White qui était là, mais je pense qu'il y avait plus de choses possibles. Et c'était une époque qui était un peu plus drôle que maintenant.
Ouais. Ah, rien à voir aujourd'hui. Ils voulaient arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ouais. Maintenant qu'ils ont les 7 milliards dans la poche, on est dans une époque différente et tout est complètement différent.
Et maintenant, ça laisse la place à des Josh Okit, Baba.
Exactement.
Dont on va parler dans quelques instants. On va entamer ce focus en tout cas sur l'UFC. 327, c'était dans la nuit de samedi à dimanche à Miami. Il y a eu vous avez fait avec Thomas Desson, avec Mickaël Lebout en plateau tous les trois, vous avez fait une grosse partie sur la ville de Miami qui accueillait un UFC depuis c'est récurrent maintenant depuis 2023, 2024, 2025, 2026, mais avant, la dernière fois c'était en 2003, donc il y a eu 20 ans. Vous pouvez retrouver ça sur le replay RMC Sport si ça vous intéresse, mais il y a des accords aussi qui sont gouvernementaux avec le gouverneur de Floride qui est proche de Donald Trump, donc il y a peut-être facilité aussi que l'UFC puisse revenir, etc. Beaucoup de choses très intéressantes à creuser dans cette émission spéciale que vous avez fait avant l'UFC 327, et là il y avait Donald Trump qui est venu cette soirée-là. Ça c'est assez fou parce que moi en plus on est ici chez RMC dans le même studio que BFM Télé.
Exact.
Je passe dans les couloirs, je vois Donald Trump qui fait une déclaration en direct sur BFM et sur toutes les télés dans le monde entier, Détroit d'Hormuz, etc. machin, et il est devant la Maison Blanche à Washington. Et là, la rumeur avait déjà couru comme quoi Donald Trump allait venir à Miami pour assister à l'UFC, parce que Romain Pougeot, notre reporter à RMC Sport, était sur place et nous a dit, là, il y a un truc et normalement, ça sent Donald Trump qui va venir. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je regarde sur Internet et je vois qu'il y a 2h50, peut-être avec Air Force One, c'est un peu moins, d'avion entre Washington et Miami. Ça collait pour le début de la carte principale. Et Donald Trump est venu et c'est encore un signe à quel point l'UFC est politisé quand même et... enfin voilà, c'est et dans le géopolitique, et ça fait aussi partie de l'ADN de l'UFC aujourd'hui.
Exactement. Sans commenter outre mesure, pendant qu'il prenait son avion pour venir regarder de la bagarre, il y avait J.D. Vance qui était en train de négocier, et d'échouer d'ailleurs à négocier sur la paix et il est en train d'annoncer que bah, ça s'était mal passé et qu'on allait probablement repartir en guerre. Donc c'est vrai que le contraste est assez saisissant. Tu te demandes, ouais, mais il a tellement besoin de ça pour... voilà, pour pouvoir continuer à véhiculer certains messages, de, bah, que voilà, il va prendre son avion et qu'il va venir à l'UFC, c'est, je sais pas comment t'expliquer, c'est ahurissant.
C'est ahurissant, et le pire, et le plus fort, on peut le voir d'un extrême à l'autre, les deux sont ouais. aussi remarquables, c'est que malgré qu'il ait beaucoup d'autres choses à gérer, finalement ça a été lui le matchmaker de l'UFC sur cette soirée-là, parce qu'il a créé deux combats parce que il y a eu un live Instagram ou je sais plus sur quelle plateforme c'était de Dana White pendant la soirée où elle a dit j'ai appelé Derek Lewis parce que le président Trump m'a dit mais pourquoi Derek Lewis il va pas venir combattre le 14 juin à la Maison Blanche pour mon anniversaire, donc il dit j'ai appelé Derek Lewis pendant la soirée, il va combattre contre Josh Okit qui a combattu pendant cette soirée de l'UFC 327.
Exactement.
Donc ils ont rajouté un vrai combat d'Entertainer, enfin on l'espère,
ça va tomber là, oui.
On s'attendait à ça contre Francis Ngannou aussi en 2018 et finalement c'est resté plus que debout mais je crois
qu'Okit il pose
depuis longtemps je pense.
Ouais voilà. Mais c'est ça. Et puis il y a même Paulo Costa, tu te demandes si lui aussi va pas être à la Maison Blanche vu l'échange qu'il a eu avec Trump.
Il est resté 2 minutes
en train de lui expliquer qu'il était beau gosse et tout ça, donc je serais même pas surpris si on apprenait aussi que Paulo Costa s'est acheté une place sur cet événement.
Ouais, tout ça est fou. Bon voilà, c'était le contexte un petit peu extra sportif qui relie le sportif, bien qu'on ne s'y attende pas à ce moment là mais les deux ont été mêlés de manière assez surprenante. On va aller dans le pur sportif maintenant, Baba, sur cette UFC 327 avec les résultats soulignés sur lesquels on ne va pas revenir trop en profondeur, mais Kelvin Gastelum qui s'est fait soumettre à la première reprise contre Vicente Luque, c'était pas sur AMC Sport malheureusement parce que c'était en early prelims, et sur les combats des préliminaires auxquels on a assisté sur AMC Sport à partir d'1h du matin, Mateusz Gamrot qui l'a emporté, gros combat de Mateusz Gamrot, hein, grosse lutte, gros grappling, et en fait il est nul dans ses call-out, on l'a déjà dit ici de nombreuses fois au micro d'AMC Sport. D'ailleurs je crois qu'il n'a pas été très bon encore sur son discours d'après combat parce que c'est assez flou, tu ne sais pas vraiment où il va. Malgré tout, il prend des mecs qui sont derrière lui et les tabasse comme s'il allait tabasser des mecs qui sont devant lui, il prend les combats très au sérieux.
Ouais, non, de toute façon Mateusz il est super fort et on a revu, en tout cas il a rappelé aux gens à quel point il était fort, parce qu'il a laissé quasiment aucune chance à Rebecca qui était un petit peu un des combattants avec une grosse hype là actuellement dans la catégorie des légers. Il a montré qu'il y avait des niveaux dans ce game et que voilà ce que ça donne un combattant qui est dans le top 10 depuis plusieurs années, un combattant qui essaye d'entrer lui dans le top 15. Je l'ai dit en live, je le redis maintenant, c'est pour ça que je regrette moi que ce soit pas Fares Ziam qui ait eu un combat contre Gamrot, parce que déjà il le mérite et je crois que l'opposition était bien plus intéressante et bien plus équilibrée que ça. Le truc aussi c'est que derrière, comme tu l'as dit, il fait cette perf, tu fais un gros statement, tu dis c'est la deuxième fois que vous me donnez un mec non classé, je le bats, donc j'ai montré qu'il y a des niveaux, donnez-moi un mec devant moi. Ouais. Et dans la même respiration tu dis Diego Lopez, j'ai appris que t'allais monter, moi je te prends. Mais qu'est-ce que ça veut dire,
c'est
ça,
Mateusz Gamrot, c'est pas
qu'est-ce que tu
tout.
Fais Mais t'es son manager, tu pètes les plombs en fait. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? L'UFC, ils vont dire, bah d'accord, avec plaisir en fait.
Sincèrement, là-dessus, c'est peut-être le pire gars à l'UFC.
Je comprends pas.
Il est top 10, ça fait longtemps qu'il est top 10, il pourrait prétendre à prendre... Non,
ils vont pas te payer plus hein, pour combattre Diego Lopez, ça, parce que je vois déjà les gens qui vont me dire ça. Non, il sera pas payé plus pour affronter Diego Lopez. Ce sera dans son contrat. Il va risquer sa place contre Diego Lopez, même si je le vois bien meilleur que Lopez, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il le battrait. Mais non, tu dois call out les 7 mecs qui sont devant toi. Tu as déjà perdu du temps par rapport à ça. Tu as déjà Benoît Saint-Denis qui t'est passé, c'est même pas qui t'est passé devant. Là, si tu fais une analogie avec la Formule 1, il lui a mis une tempête, mais laisse tomber, quoi. Alors qu'il était derrière.
Bah Benoît,
et que l'année dernière, il le call out justement, tu vois.
Ouais.
Et aujourd'hui, Benoît, il est en très bonne position pour combattre cet été dans ce qui peut être une des plus grosses cartes de l'année, dans un combat qui va être très intéressant, probablement. Là, il faut qu'il comprenne que pour sa carrière, c'est pas bon et il est pas si jeune que ça. Il a plus beaucoup de temps, Gamrot.
Ouais, c'est clair. Et puis passer de combattre des mecs qui sont hors ranking à aller vouloir prendre un mec qui est top 3. Enfin, tu où est-ce que tu te situes, mets le curseur au bon endroit,
quelque chose, ouais, voilà.
va call out des mecs qui sont entre les deux, enfin Ziam qui est ranké désormais, enfin voilà, fais des trucs qui sont un peu plus cohérents et lui-même ça lui apportera un peu de cohérence. Et puis en plus quand il prend des gros combats comme sa défaite contre Charles Oliveira, ça se fait un peu short notice,
normalement,
c'est un peu last minute, voilà, mais
normalement t'es récompensé quand tu fais ça. tu prends un short notice contre un mec aussi fort que ça chez lui,
au Brésil,
normalement l'UFC te dit ok, tu nous as rendu service, on va te donner un top 5 comme ça, voilà. Je sais pas, t'as des Dan Hooker qui sont autour de toi, t'as des mecs au pire, hein, tu vois, si tu veux call out des gars comme ça.
Surtout que face à Dan Hooker, le match-up il serait très très profitable à mon avis. Vu la lutte et ce qu'il a appliqué contre Ribovic, à mon avis contre Dan Hooker, il pourrait faire quelque chose de très très bon.
Encore une fois, je ne comprends pas ces stratégies. Après, juste il pète les plombs, c'est un combattant qui veut combattre, et ça je l'entends et je respecterai toujours les mecs qui veulent combattre à tout prix, mais c'est une carrière. Il y a de la gestion là-dedans.
Ouais, je trouve que chez Gamant, tu sens une vraie fraîcheur, une vraie passion. Même au micro après, il est content, il est là.
C'est un super bon gars.
Et c'est là où il n'y a pas de calcul. C'est là où il en faut un peu du calcul. Ouais.
Mais c'est pour ça que ça me frustre. Il est très instinctif. C'est un excellent combattant qui mérite d'être plus haut que ça.
Il a l'air d'être un bon mec en tout cas.
Il mérite d'être plus haut que ça. Il devrait faire attention parce qu'il mérite sa chance pour le top 5 minimum.
Et puis là, un mec qui est top 10, des moins de 70, et qui est en début de prélims. Deuxième combat des prélims. En plus de ça, tu te dis qu'il y a une sorte d'injustice aussi. Il est vraiment pas récompensé par rapport à ce qu'il arrive à produire dans la cage.
Pas du tout.
Et heureusement pour lui et pour le reste de sa carrière, il a quand même battu Ribovic qui lui était hors classement chez moins de 70. Les deux autres combats rapidement en fin de prélims, c'était chez les welter moins de 77, Kevin Holland contre Randy Brown, et puis Aaron Pico contre Patricio Pitbull, pour les deux anciens du Bellator qui sont affrontés. Peut-être Aaron Pico, c'est la plus belle perf à souligner dans ce qui s'est fait là, parce qu'il a été vraiment chirurgical.
Il a été chirurgical. J'ai vu beaucoup de combats de Pico. Je pense que son deuxième round, c'est le meilleur round qu'il ait combattu de sa carrière. Vraiment, il a été très, très, très bon. Il a mixé tout ce qui a fait qu'il est fort et toutes les promesses qu'on avait sur lui, un lutteur de niveau quasiment olympique et une boxe anglaise phénoménale. Il a réussi à tout faire fonctionner comme il fallait. Timing, précision, vitesse, puissance, il y avait tout. Il y avait les takedowns, un athlétisme des fois irréel même. Donc le voir comme ça fait plaisir. C'est une belle promesse pour la suite. Il intègre a priori le top 15 minimum, parce qu'il était 13e je crois à Pitbull. Donc c'est ça augure quelque chose de bon pour lui, j'espère.
Ouais, très bon. Et puis faut mettre quand même à son crédit sa défaite contre Aaron Murphy, parce qu'il faisait un bon combat avant de perdre finalement. Mais voilà, c'est quand même un gars qui a montré très bonnes choses. Et Aaron Pico, très grand professionnel aussi. Ouais. On parlait d'athlète comme Anthony Joshua en début de podcast, mais Aaron Pico, c'est aussi regarder les vidéos, quand ses entraînements, etc. C'est du très solide. Ça me fait penser aussi un peu à Tsaroukian, d'une sorte de rigueur, très de shape, qui a l'air de pas trop bouger, même quand il est hors combat. Donc grand professionnel, et on espère qu'il va faire de belles choses. J'ai les moins de 66 kilos. Carte principale, on commence avec Cub Swanson contre Nate Landwehr. Je fais dans cet ordre-là, on terminera par le combat principal, mais on fait rapide sur ce qui s'est passé avant, même si au kit, je pense qu'il y aura 2-3 trucs à dire. Cub Swanson, retraite, grand combattant. Ouais. Vous avez fait un Legends avec Thomas Desson il y a peu de temps sur son combat contre Choi. Ouais. Il a fait un gros, gros combat BMF, je trouve. Il est arrivé dans une attitude Nate Diaz avec la garde en bas, les bras un peu tendus comme ça, les épaules qui remontaient un petit peu au niveau des joues. Et puis il a envoyé des vrais parpaings. Il s'est dit, ça y est, faut que ce dernier combat, il avait annoncé, c'était son dernier combat. À la retraite, il a posé les gants juste après. Il a fait un beau combat BMF pour moi.
Ouais, mais de toute façon, ça a toujours été un BMF dans ce sens-là, Cub Swanson. C'est des combats de gangsters qu'il fait toujours, lui.
Ouais.
Lui, il va venir pour essayer de t'arracher la tête, peu importe qui t'es. C'est pour ça qu'il a été longtemps top 5 dans cette catégorie-là. C'est pour ça qu'au WEC, il a affronté des mecs qui sont devenus des légendes. C'est une légende du game, peut-être moins connue que les autres, parce qu'il n'a pas été champion, mais c'est une légende du game qui a affronté tous les mecs de sa génération et les mecs de la génération d'après. C'est un des combattants les plus cools qui existait dans le MMA. J'ai même pas peur de te le dire et je pense que j'exagère pas du tout. Moi, ça me fait un petit pincement de voir ce mec-là se retirer, mais je suis content qu'il le fasse. J'espère que c'est une retraite qui tiendra. Je vois d'autres combattants, parce qu'on dit que c'était le dernier mec du WEC à l'UFC, certes, parce qu'il y en a d'autres qui combattent encore. Il y en a d'autres qui combattent en Bernekel ou en je ne sais pas quoi d'autre. Bon, ça fait quand même longtemps qu'il combat.
Il faut souligner le WEC à l'époque de la transition. C'est assez mythique, les mecs qui étaient au WEC et qui ont fait l'UFC, qui ont été tout de suite intégrés à l'UFC avec cette filiation qui s'est faite. Ouais. Mais c'est assez historique dans l'histoire de l'UFC aussi.
Ouais, bien sûr. C'est vraiment une organisation qui est très importante pour tout le monde. Pardon. Et en fait, il fallait suivre ce truc-là. Il fallait être là à l'époque, je crois, parce que tu sais, t'avais l'impression d'être cool. C'était l'organisation un petit peu underground où les mecs, ils étaient trop, trop forts. Et donc toi, moi, je connais. Donc tu vois, tu sais pas ce que c'est la WEC, la WEC, comme on disait entre nous. Et quand les mecs, ils ont été absorbés à l'UFC, j'ai presque été un peu, c'est chiant parce que on va les diluer dans un produit. ils seront peut-être moins starifiés. Bon, au final, j'ai eu tort. Ils ont, pour certains, ils ont été vraiment starifiés. Ouais. Ils ont eu la lumière qu'il fallait. Donc c'est cool. Et Swanson, il fait partie de cette génération-là. Et voilà. Moi, je pense que c'est... refaites-vous ces combats parce que c'est un vrai action fighter qui était toujours là pour proposer du spectacle. Je crois que les potos Alex et Samir et Omar ont sorti un épisode sur lui.
Ouais, sur Jab Life. Bah,
franchement, je vous invite à aller l'écouter parce que je sais qu'ils vont lui rendre hommage comme il faut.
Ouais, exactement. Cub Swanson, grand combattant de l'UFC. En plus, il me fait penser dans le personnage aujourd'hui un peu à Dustin Poirier, tu sais, le vrai américain que tu sens attaché à sa nation, attaché à son drapeau. Ouais. Le gars de la famille aussi, parce qu'il y a toute sa famille, je crois, 3 ans. Enfant, ouais. Avec sa femme qui était, enfin tu vois, il me fait penser aujourd'hui dans ce qu'il a construit, l'image, la représentation qui veut dégager, il me fait penser un peu à Dustin Poirier, ouais, un peu bad boy à l'époque, qui finalement aujourd'hui c'est un peu rangé, plus un vrai père de famille, très responsable, très aimant, enfin voilà, ouais. c'est l'image que j'ai un peu de lui. Et j'ai aussi envie de me dire qu'est-ce que ça doit être frustrant quand même de prendre sa retraite quand tu finis sur un combat comme ça. Il aurait pu recombattre, vu ce qu'il a donné, il aurait pu recombattre la semaine suivante. Si l'UFC lui dit tu recombats dans une semaine, il a pas pris de coup, il a fait un gros fractionné en gros sur ce combat contre Nate Landwehr, mais dans une semaine il aurait pu recombattre, ça doit être frustrant quand même.
Ouais, c'est vrai, mais c'est le piège, c'est tout le piège est là.
Surtout qu'il doit prendre des bons billets. Ouais. Mais même si il était en début de carte principale, mais je pense qu'il prend minimum 150 000.
Oui, minimum.
150 000 sur cette fin de carrière.
Il doit avoir un bon contrat. Il a un contrat de mec qui a été plusieurs fois Fight of the Night.
J'imagine,
plusieurs
en tout
bonus,
cas 100 000, je pense.
Donc, Non, c'est quelqu'un qui est respecté. Tu sens qu'il était apprécié aussi par l'organisation. On lui a toujours donné des combats intéressants. On lui a toujours donné de quoi se maintenir à ce niveau-là et pourquoi pas même rester autour du classement. Donc, t'as raison. Ça doit être frustrant, Charles, mais c'est le piège. C'est le piège. Faut essayer de tenir.
Ouais, en tout cas, bel hommage. Et l'UFC qui a joué le jeu aussi, qui avait fait un clip prévu. D'ailleurs, heureusement qu'il a gagné parce que quand tu prends un clip, si tu t'es mangé un KO et qu'il y a un clip hommage à toi avec toute la salle qui a l'image de toi qui était par terre il y a 10 secondes, ça doit être un petit peu dur. Ouais. Donc voilà, bel hommage à Cub Swanson en tout cas qui a marqué l'histoire de l'UFC par cette belle carrière, qui a quand même battu Charles Oliveira.
Charles Oliveira par KO, il a battu Poirier, il a combattu. Ouais, bon, il a pris un highlight KO par Aldo, mais bon, à l'époque tout le monde en prenait. Ouais. Enfin, il a combattu tous les mecs forts de sa génération, tout le monde.
Très très lourd. Cub Swanson à la retraite, vainqueur de Nate Landwehr en ouverture de carte principale TKO à la première reprise. Dominique Reyes contre Johnny Walker, victoire par décision de Dominique Reyes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat?
Ah bah il comprend pas. Je m'attendais à un combat n'importe quoi, à un accident de voiture. Et on a eu un combat On a eu un combat technico-tactique pendant 3 rounds avec un Reyes qui était très 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 prudent. Ouais. Et un Walker qui du coup s'est retrouvé un petit peu neutralisé, qui savait pas trop quoi faire de ça. Je pense qu'il attendait quelqu'un de plus agressif. Reyes aussi, peut-être qu'il attendait quelqu'un de plus agressif. Donc ils se sont un peu neutralisés. À ce jeu-là, c'est Reyes qui a pris un léger avantage. Il a expliqué en conférence de presse. Il a dit une phrase qui me fait fermer ma bouche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dit j'ai un fils. J'ai plus besoin du chèque que du spectaculaire, et je n'ai rien à dire.
Si tu veux aller chercher le chèque, faire un round d'observation comme ils ont fait au premier round par exemple, tu t'assures pas, t'as pas la certitude d'aller chercher le chèque à la fin. Déjà t'as 100 000 dollars que tu peux enlever. Si tu continues comme ça, même les 25 000 de finish, tu peux, donc à la fois ça se tient, mais à la fois tu vois c'est, et en plus de ça, si en gros il est à, je sais pas, un mec comme Reyes, il doit prendre 150-200 sur ses combats.
Il a été challenger donc au minimum, j'espère. Donc, en tout cas pour lui,
Et puis bon, il a quand même marqué aussi l'histoire quand même avec ce combat contre John Jones qu'il aurait pu remporter à l'époque. Ça se tient, mais en même temps c'est vrai que c'est très décevant.
Non, t'as raison, parce que c'est des risques à prendre.
C'est des risques à prendre, mais c'est là où tu te rends compte aussi à quel point deux profils de gros spectacles qui doivent arriver, que tu vois arriver comme des Ferrari à 300 sur, et bah finalement parfois ça, on parlait tout à l'heure, mais celui-là il est tellement marquant historiquement, le Derrick Lewis contre Francis Ngannou, mais parfois ça floppe complet.
Parfois ça floppe complet. Tu t'y attends pas et tu dis faut toujours se rappeler que ce genre de choses peut arriver, surtout au stade où les gars peuvent en être dans leur carrière. En fin de compte, avec une analyse plus fine, tu te dis peut-être que tu peux le voir arriver, parce que Walker, il en a un petit peu marre aussi de se faire éteindre la lumière toute la journée. Reyes, il a pris pas mal de KO et là il était bien revenu. Il a pris un énorme KO contre Hulberg à sa dernière sortie.
Je crois que ça a été évoqué dans la soirée spéciale. Quelle trace a laissé ce gros KO pris par Hulberg?
Donc tu te dis que ça a dû probablement jouer et que c'est vrai qu'en étant peut-être plus fin en analyse, tu te dis c'est très possible face à un combat comme ça, les gars.
Et puis il semble le fait d'être papa, Il a aussi dit qu'il avait changé beaucoup de choses dans sa préparation, sa manière de s'entraîner. Donc ouais. Peut-être que maintenant, il se dit, je vais essayer de garder, capitaliser sur les points de vie qui me restent pour ne pas en perdre trop sur cette fin de carrière. Et puis, continuer à prendre mes billets. Et puis, tant que je peux encore le faire, y aller sans prendre trop de risques. Et c'est ce qu'il a fait. En tout cas, ça prouve quand même que même face à des mecs qui sont assez offensifs comme Johnny Walker, il arrive à les canaliser.
Ouais, il arrive à le faire.
C'est plutôt un bon signe aussi pour s'il a envie d'aller sur ce chemin-là, sur le reste de sa carrière, c'est plutôt bon signe.
Exactement.
Aussi.
Peut-être aussi qu'il veut prolonger sa carrière, qu'il veut combattre le plus longtemps possible, entre guillemets. Je vais faire un parallèle avec André Arlovski, qui est l'ancien champion poids lourd de l'UFC. Quand il était plus jeune, c'était un casse-cou, il allait à la bagarre, et donc il a pris pas mal de KO. Et puis à un moment, il s'est dit, je vais combattre encore longtemps, donc il faut que je change. Mmh. Et il a changé, c'est devenu un combattant qui était peut-être devenu un peu plus chiant aux yeux du public, mais il s'est préservé beaucoup, beaucoup plus. Et ça lui a permis de tenir tête à des gars pendant très longtemps, alors qu'il était très, très éloigné de son prime.
Ouais. Dominic Reyes, victoire donc sur Johnny Walker, décision, split decision hein, quand même. Donc,
il a jeté le dé. Ouais.
Serré, ouais, avec donc une victoire sur ce combat. Deuxième combat de carte principale. Un combat, je sais que tu as été assez prolixe sur ce combat l'autre soir, parce que finalement, alors en fait, Romain Pougeot, notre reporter MC Sport, qu'on salue bien sûr, qui doit peut-être être dans l'avion d'ailleurs de retour de Miami, il n'a pas fait beau à Miami en plus, hein.
C'était pas fou. Ouais.
Pas un temps de fou, mais bon quand même, je pense qu'il a bien profité Romain, il nous a dit, en fait ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un manque de hype sur cette Fight Week. Ulberg, Prochaska, ça ne fait pas déplacer les foules, il n'y a pas de latino, et à Miami on sait que quand il y a des latinos, quand il y a des mecs qui viennent du coin aussi, ça attire aussi beaucoup, ça peut faire une sorte d'émulsion là-dessus, ça n'a pas été le cas sur ce combat-là. En l'occurrence, Josh Okit, ça a été la star de cette Fight Week.
Ouais.
Ça a été la star de cette
clairement.
Fight Week, que ce soit pour les journalistes ou pour les fans qui ont aimé ce personnage. En tout cas, ils ont soit aimé l'aimer, soit ils ont aimé le détester. Mais quoi qu'il arrive, Josh Okit, ça a été lui la star de cette Fight Week.
Ouais.
Et qu'on le veuille ou non, c'est une réalité.
Ouais, c'est exactement. Et il n'y a pas de souci là-dessus, en fait. Il fait ce qu'il faut dans le monde d'aujourd'hui, entre guillemets, pour devenir une star. Ça fonctionne. Il y a un public qui est pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que quand on parlait pendant le direct et qu'on décrivait ce que faisait Okit, moi, évidemment, j'aime pas du tout. Donc, j'ai vu que certains s'en offusquaient. Ok, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire, parce que je vais continuer à m'en offusquer, moi j'aime pas, j'ai le droit de pas aimer, toi t'as le droit d'aider, vous avez le droit d'aimer, moi j'ai le droit de pas aimer. En tout cas, ça fonctionne, ça je te dirais pas que ça fonctionne pas, ça marche très bien, la vidéo de sa pesée, comme je te le disais, elle a fait 13 millions de vues, je crois, sur X, donc ça marche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le monde dans lequel on est pour le MMA, eh ben grand bien lui fasse, et ça lui permet derrière de capitaliser, et ça capitalise au centuple, puisqu'il va se retrouver sur la carte la plus importante peut-être de l'histoire du MMA, en tout cas... sur la perception, peut-être pas sur le côté sportif. Donc ça fonctionne. Et puis surtout, et c'est le plus important, et c'est le point commun avec McGregor, c'est qu'il délivre dans la cage.
Il a 9-0, je crois, maintenant, après
9-0,
ce combat. 9-0, et là, il bat Curtis Blaydes.
Tu bats Curtis Blaydes, et puis tu fais une guerre pas possible. J'ai pas souvenir de la dernière fois qu'on a vu une guerre de cette intensité-là, en poids lourd, je me rappelle même pas.
Ah ouais, parce que en fait, quand ça tape aussi précisément, aussi fort, en poids lourd, à un moment, ça tombe. T'as pas cette intensité répartie sur trois rounds.
Normalement, c'est pas possible.
Ouais, c'est rare.
C'est pas possible. Donc là, il y a eu de la résistance, il y a eu de la résilience. Il a montré qu'il avait du cœur. Tu peux pas lui enlever. Mm. Parce qu'il prend des patates de forain à un moment. Tu te dis, il va tomber. Il tombe pas. On avait prévenu avant le combat, en analyse, que c'est un combattant qui est extrêmement athlétique, qui a un passé à la fois de certes, il n'a pas été titulaire, mais en tout cas, il a fait partie d'équipe en NFL. Il luttait quand il était à la fac, et apparemment, c'était un excellent lutteur. Bonical dit de lui que c'est le seul gars, dans leurs années collège, qui a vraiment essayé de le lutter pour le battre. Il faut savoir que Bonical, il était connu justement pour éclater tout le monde, et les mecs venaient pour essayer de gagner du temps contre lui. Et il dit, c'est le seul qui a essayé de me battre vraiment à chaque fois qu'on a lutté. Donc, il y avait un potentiel, il a toujours eu un potentiel, et en plus de ça, il a une anglaise maintenant, et il cogne, et il est capable de faire beaucoup de dégâts. Il s'est prouvé qu'il était capable d'encaisser les coups contre un combattant du top. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs pour lui à ressortir de ce week-end. Maintenant, est-ce que j'aime bien quand il va sur des remarques borderline racistes? Ben non. Celui-ci sera pas en vidéo, mais j'espère que vous avez... voilà, vous avez vu les autres vidéos, hein, je sais pas... Ouais.
South State, c'est autorisé, c'est même un peu conseillé. Quand derrière tu délivres, il dit allez, vas-y, fais le personnage que tu veux, Covington, voilà. Strickland, vas-y à fond et va dans ce sillage-là. Mais là, il est vraiment passé de quasiment rien à quasiment tout en 4 jours, en fait.
Ah ouais,
c'est un truc de fou.
Ah, vraiment
T'imagines que, franchement, quasiment personne ne le connaissait avant.
Ouais.
C'était vraiment sous les radars, mais grave. Et là, il va combattre à la Maison Blanche sur demande de Dana White, quasiment.
Sur et demande
de,
du président.
De Donald Trump, je voulais dire.
Ouais, de Dana White, du président.
Les deux.
Ouais, non, mais il a fait ce qu'il devait faire. Il fallait capitaliser sur cet event-là. Il fallait capitaliser sur le week-end. Je pense encore plus quand il a compris que Donald Trump venait. Ou peut-être qu'il était déjà dans le secret et qu'il savait déjà qu'il allait venir. Donc voilà, il a fait le maximum. Donc des fois en tombant complètement dans la caricature, en conférence de presse. Romain Pougeot, qui a vécu un véritable enfer pour essayer de l'interviewer, il l'a vu.
En même temps, il a dû faire peut-être la vidéo qui a le mieux marché sur le compte RMC Sport de la semaine aussi.
Voilà, exactement. Donc,
où il a son bonnet qui est en dessous des yeux, où il regarde même pas Romain. Il est là, il parle des dates qu'il est en train de faire alors qu'il est en fight week. Enfin,
non, mais quand il parle de Cyril Gane qui fait pipi accroupi. Lui-même, tu vois qu'à un moment il perd son personnage pendant 10 secondes. Tu vois, il rigole, tu vois qu'il perd son personnage et il se remet dedans. Parce que tu vois bien que même lui, il est en train de faire un truc où il abuse.
C'est là où je fais un lien avec Fury et McGregor, dont on parlait tout à l'heure, dans des personnages très instinctifs et avec beaucoup de réalité, je pense. Ouais. Là, c'est très calculé pour moi, hein, Joshua Kitt, dans le personnage qui fait avant. Après, là où je pourrais l'accepter, en gros, c'est s'il se dit j'ai envie d'être là pour rigoler. Vas-y, j'ai un moment, c'est que du kiff. Peut-être qu'il le fait vraiment en disant, tu vois, quand il s'embrouille avec Prochaska, est-ce que il le fait pour être. S'il le fait pour être corrosif, ça me plaît moins. S'il le fait en disant je rigole. Et ça va peut-être faire rigoler d'autres personnes, ça me plaît un peu plus. Mais je sais pas, je vais essayer d'identifier dans quel perso il est vraiment,
c'est dur,
à travers les Fight Week. Mais
ça va être dur.
Je demande à Romain comment il l'a senti.
Voilà,
tu vois,
peut-être que lui pourra nous dire.
Mais si c'est pour se marrer, je trouve ça sympa. Ouais. Si c'est pour. Enfin bon, bien sûr, quand tu pars sur racisme, etc., là c'est autre chose. Tu dépasses des limites, c'est dommage si t'as envie de te marrer. Mais si c'est juste envie de se marrer, bon, bah.
En fait, tu vas peut-être trouver des choses. Tu sais, il y a des mecs qui sont involontairement très drôles. Il y a des combattants qui sont comme ça, qui arrêtent de faire rigoler en fight week et tout, alors qu'ils essayent pas de faire autant de choses. Chacun ses méthodes, chacun ses personnages. Maintenant, voilà, tout le monde a le droit, enfin, les gens qui veulent être fans de ça et aimer ça, il n'y a aucun problème là-dessus, soyez-le. Mais laissez-nous aussi, nous qui n'aimons pas, ne pas aimer.
Ouais, mais moi, j'avoue que je me suis fait un peu prendre, parce que je me souviens, même pendant la soirée, pendant le combat, moi, je te regarde, je te dis, Baba, avoue que t'as un peu envie de le voir gagner. Et là, tu m'as dit, mais il n'y a pas un seul % de mon être qui a envie de voir gagner le
Joshua Kitt. Pas du tout.
Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, je m'étais un peu fait prendre.
Mais tu vois,
parce que quand je t'ai posé la question à toi, en fait, je me l'ai posé à moi aussi, tu vois.
Ouais,
et je me disais, mais en fait, il y avait un moment où j'avais envie qu'il gagne. Parce que je me disais, mine de rien, ça apporte quelque chose, que ce soit bien ou pas bien, mais et puis voilà, quand je t'ai posé la question, on avait peut-être déjà vu deux rounds où on s'est dit bon ok, vas-y, derrière avec sa garde basse, avec il bloque les coups avec sa tête, le mec, et il tient et il en renvoie et il a de la caisse, il est assez léger pour un poids lourd, donc ça lui permet de pouvoir tenir, et c'est ça où tu dis il a en plus réussi à se prôler de temps en temps avec Curtis Blaides, alors qu'il est beaucoup plus léger, que Blaides c'est un putain de lutteur.
Tu dis,
il a quand même réussi à faire des vrais trucs sur ce
combat. Il est fort, non, franchement il est bon, il y a plein de choses de lui qui font que qu'il peut être dangereux. J'ai vu des mecs dire j'ai envie de voir le fou du bus gagner parce que ça apporte quelque chose, et je comprends parfaitement, encore une fois, et je te dirais même que la catégorie des poids lourds, c'était un petit peu chiant là ces derniers temps, on est complètement bloqué avec ce qui se passe tout en haut. On a enfin quelque chose d'intéressant parce qu'on a Pereira qui monte, donc t'as un mec comme ça qui vient un peu foutre la merde, ça va être sympa. Maintenant, je vais te dire en toute franchise, demain tu le mets dans la cage avec Cyril, tu le mets dans la cage avec Tom, tu le mets dans la cage avec Volkov. Moi, je pense qu'il se fait monter en l'air.
Ouais.
Je le dis clair et net. Et je pense qu'à un moment donné, il va se demander si c'est pas mieux d'aller à 93. Et franchement, à 93,
vu la shape qu'il a, bien.
Ben là, je me dis que les mecs en 93 kilos seront peut-être pas super contents que ce gars-là descende, parce que athlétiquement parlant, il va leur poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, je crois.
Ouais, c'est clair. Joshua Kitt, non, c'est une vraie interrogation, parce que là, il va faire top 5, top 6.
Il va faire top 6, normalement, il était 6ème, Blaides.
Ouais, donc là, il s'ouvre les portes de beaucoup de très gros combats. Et puis, s'il arrive à battre Derek Lewis, il s'assure une belle ligne assez rutilante au niveau de son CV. Donc c'est un combattant qu'on risque de j'ai plus son âge en tête, par contre.
Je crois que j'ai une petite trentaine.
Une petite trentaine. Ouais. Donc si en plus, il continue chez les lourds, généralement, c'est une catégorie où tu peux tenir un petit peu.
Il commence. seulement
où tu peux dire ah, après ouais. si il fait des combats comme il a fait là contre Curtis Blaydes où il prend autant de coups mais en plus il y avait quand même de la variation. Le truc c'est sa garde, voilà, il avançait, il aucune garde, il prenait les coups, etc. Mais quand il était au corps à corps, il essayait de monter un peu les genoux, mais après il y a son déficit de taille aussi face à des mecs comme ça.
Ouais,
monter les genoux jusqu'au corps, c'est un petit peu dur pour lui aussi,
ouais,
parce
mais il
que
le faisait,
ça plus d'efforts, mais il essayait de le faire.
T'as raison de le souligner, il le faisait bien, il y a des coups de genoux, moi j'ai vu qu'il y a certains qui ont fait mal. Et puis surtout, il a une capacité à accélérer avec les mains qui est assez bluffante. Il va vite et tape fort.
Son jab au troisième round.
À un moment,
il
décide de travailler
très,
que derrière
solide,
son jab. Parce qu'à un moment, Greg Jackson, il lui dit « Je suis Greg Jackson, il va falloir que tu m'écoutes 5 secondes quand même, tu vois.
» Ça d'ailleurs, au commentaire, on entend Antoine et Taylor qui découvre que c'est Jackson Wink qui est dans son coin.
Incroyable.
Et qui dit « Mais comment un mec comme ça peut être avec Jackson Wink ?»
Donc à un moment, il finit par, pendant 3 minutes, travailler derrière son jab. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il gagne la troisième reprise et le combat. Mais il a une capacité assez bluffante à accélérer au milieu des rangs, alors qu'il vient de prendre beaucoup de dégâts. Et d'un seul coup, il met un turbo, combinaison 1, 2, 3, les coudes qui sortent dans le clinch. Donc, encore une fois, il fait des choses intéressantes. Il fait des choses intéressantes. Et écoute, ce qu'il a fait en dehors de la cage lui a permis de capitaliser. Parce que dans le scénario où à la Maison-Blanche, il met KO Derrick Lewis, bah, pardonnez-moi de vous dire que c'est un combattant qui va combattre pour le titre très vite.
Ah ouais.
Très bien.
Ah ouais, c'est clair. Ouais, si met KO, on va voir ce qui se passe pour Cyril Gane, etc. Mais là, s'il bat Derrick Lewis,
il combattra pour le titre.
Il peut être un combat d'un title shot.
Moi, je dirais même ils vont le faire passer devant. Ouais. S'ils l'ont fait avec Pimblett et tout, je vois pas pourquoi ils le feraient pas avec lui, il est américain.
Ouais, gardons Volkov dans un coin de l'œil quand même, parce que. Mais bon, tout peut se passer.
Sur YouTube, j'ai vu une vidéo dans la semaine, la Fight Week, là où il disait. Le titre, c'est même pas Josh Okit Highlight, c'est écrit c'est américain, mais tout le monde KO au premier round. Ouais. Ça, c'est le compte YouTube de l'UFC.
Okay.
C'est américain.
Ouais. Ouais, ils ont besoin de le faire monter avec d'ailleurs une belle recrue hein, chez les poids lourds d'ailleurs, parce que tu
ouais.
dis que.
Ouais, par contre, dépêchez-vous tous.
Voilà, donc petite digression là-dessus. Juste. On conclut hein, pour dire que Josh Okit l'emporte face à Curtis Blaydes, décision unanime au bout des trois rounds. On pensait pas que ça allait aller au bout, finalement
non,
ça allait au bout. En plus de ça, milieu à peu près à 2 minutes du premier round, je crois, Curtis Blaydes. Après, au début, on se dit pourquoi il va pas le coller
en fait.
Et finalement, quand il va le coller, il y a une réponse.
Il
et donc finalement, ça part en striking.
Ouais.
Et donc, ça a été profitable à Josh Okit. Si la victoire va à Curtis Blaydes, c'est pas scandale non plus. Hein.
Non, c'est pas un scandale. Et tu peux te demander pourquoi Blaydes il lutte pas tout de suite, mais en même temps, il prend un bouillon direct.
Ouais.
Donc, tu perds lucidité, tu perds tout ce qu'il faut. Et puis Blaydes, ça n'a jamais été le combattant avec le plus gros fight IQ, hein, on ne va pas se mentir. Donc, la lutte, ce n'était plus une option.
Ouais, exactement. Donc, victoire de Josh Okit qui pourrait potentiellement être à un combat du titre. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
Ouais,
s'il remporte deux combats, il peut être champion UFC.
Ouais.
Lui qu'on connaissait à peine il y a encore une semaine. Josh Okit qui était troisième combat sur la carte principale. Et donc, grosse recrue. Hein, toi, tu l'as dit aussi. Quand tu l'as dit, il était à côté de John Jones ce soir-là à l'UFC. Ça m'a étonné d'ailleurs, hein, vu les histoires qu'il peut y avoir Jones, UFC,
t'as pas
etc.
Vu, il a essayé de tout reculer, là, Jones. Il a dit non, mais finalement, tout va bien entre nous.
Ok.
Il veut sa place à la Maison Blanche quand même.
S'ils ont rajouté
des combats, s'asseoir.
Ouais, exactement. Et donc une grosse, énorme recrue qui pour toi pourrait faire très très mal parce que c'est un gros lutteur.
Il va faire très mal.
Et que ça pourrait. Il est encore assez jeune, il est encore assez frais et la lutte c'est son gros point fort. Ça pourrait faire très mal.
Il est monstrueux déjà physiquement, athlétiquement. C'est un lutteur exceptionnel, champion olympique. C'est pas juste. Un autre lutteur NCAA, tu vois, c'est un champion olympique qui vient en MMA, un combattant qui sait déjà bien utiliser sa boxe pour le combat, qui, pour se préparer à cette venue à l'UFC, a choisi de combattre dans les ligues mineures en MMA, certes, mais aussi en dirty boxing notamment. Donc il a fait des combats en anglaise quasiment. Il fait toutes les bonnes choses, je crois, et on va pas se mentir, que tu aimes Jones ou que tu aimes pas John Jones, s'entraîner avec Jones pour préparer ta venue à l'UFC, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour le faire, clairement, parce qu'il va lui faire adapter sa lutte pour le MMA comme il le faut. Enfin, utiliser ses armes, lui donner certaines armes justement que Jones lui a pu implémenter, les coups de cou, les coups de genou, les types, etc. Donc moi je pense que il est extrêmement dangereux. Il va être poussé, donc ça va être le turbo, ça va être un combat puis un deuxième puis un top 5 et un combat pour le titre si tout se passe bien. Moi je pense qu'en moins de 5 combats on lui donne sa chance pour le titre. Et puis c'est un gars qui est extrêmement populaire malgré certains déboires, parce que lui aussi il a eu affaire à la justice notamment. Mais voilà, c'est un combattant qui est populaire, qui va ramener encore pas mal de regards sur l'UFC. Donc en termes de business, c'est une excellente recrue pour eux, et en termes sportifs, c'est une excellente recrue pour tout le monde.
Ouais, Gable Stevenson donc, qui est désormais combattant UFC, entouré par John Jones. En plus, c'est vrai que c'est un pattern qui peut aider hein, de temps en temps, ouais. avoir un mec comme ça à côté de toi, même sur l'état d'esprit hein. À un moment, le mec il a tout traversé, il a vécu toutes les époques depuis 15 ans, ouais. Juste avoir les conseils de ce gars-là, même sur le côté dirty, enfin voilà, ça pourra aider certainement Stevenson, oui. À faire la carrière qu'il souhaite à l'UFC. Et en MMA, Paulo Costa, Azamat Mourzakhanov, co-main event donc, qui avait remplacé le combat entre Taïra et Joshua Van, puisque Joshua Van était blessé, qu'on m'a reporté pour l'UFC 328. Et donc Mourzakhanov, qui était quand même attendu, hein, puisqu'il était à 16-0, il me semble. Il avait pas mal de KO d'affilée, puncher. Et finalement, on a été très surpris par Paulo Costa, qui arrive chez les moins de 93.
Vintage, un Paulo Costa qu'on n'a pas vu depuis 8-9 ans. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Le Paulo Costa de l'époque, qui avait un vrai débit de coups, qui était agressif, qui savait boxer en avançant et en reculant. Là, en fait, il y a eu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et il commence le combat en étant Paulo Costa qu'on avait connu à l'époque. Donc, il avance, il est confiant. Puis, il prend des coups. Donc, dans la deuxième, il est souvent dos contre la cage, il se déplace. Et là, c'est Paulo Costa qu'on a vu ces derniers temps, qui manque de confiance en lui. Mais il revient très bien. Il revient très bien dans la troisième. Il ajuste, il utilise beaucoup ses jambes. Et sur un kick, il finit le combat. Donc, d'ailleurs, c'est son premier finish depuis 8 ans. Son dernier finish, c'était en 2016.
8 ans.
2018, pardon. C'est en 2018, son dernier. Ça date.
C'est fou.
Mais je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance. Et dans cette caté, il a une bonne carte à jouer.
C'est techniquement, c'est le seul truc qui a fait mal. En fait, c'est les kicks qui ont été très forts. Parce que c'est ses middle. Ouais. Même si Mourzakhanov, il arrivait quand même à gérer le combat. Il y avait une petite impression de domination. Même si le premier round, 1-2, si ça va à la notation, tu ne sais pas exactement où ça va. Ouais. Mais il envoie des middle, on les entend aussi, claque bien, et c'est finalement là-dessus qu'il arrive à gagner le combo aussi derrière, sur un kick en tout cas.
Exactement. Mais donc c'est bien.
Et puis il y a une sorte de fraîcheur dans son attitude, dans son envie, dans son discours. Il a été assez. Il a été bon, je trouve, dans la globalité de ce qu'il a dégagé. Bon, il a parlé 2-3 minutes avec Donald Trump. c'était assez lunaire. Hein. T'entends Donald Trump, c'est ça, lui dire t'es beau, t'es machin.
Tu ne pourrais pas combattre un mannequin. Enfin, ouais,
c'est pas possible. Et tu dis que ça se trouve 5 minutes après. Donald Trump, il va voir Poutine au téléphone pour une histoire de conflit international. Et là, il dit à Paulo Costa, t'es beau. ça m'hallucine. C'est hallucinant. Mais en tout cas, voilà, un Paulo Costa vintage et qui lui aussi, hein, il pourrait. C'est un nom. Il a fait une belle performance. Il a tapé un mec qui montait et qui était sur une belle série. Il pourrait arriver assez vite à de très belles choses.
Bah, c'est clair, parce que je crois que Mourzakhanov, il était, je sais plus s'il était 8 ou 6 au classement. Mais en tout cas, il était bien classé, donc il va lui prendre sa place. Ouais. Tout de suite, être dans les combattants qui comptent en 93 kilos. Et on va avoir des combats intéressants, parce qu'un Costa Roundtree, c'est super intéressant. Un Costa Proasca, c'est super intéressant, etc. Donc maintenant, je pense qu'il y a certains gabarits avec lesquels il va quand même galérer. Ouais. Il y a des Golgoths en 93 kilos. Mais voilà, je pense que son arrivée à lui, l'arrivée prochaine aussi de Whittaker, ce qui s'est passé au sommet de la KT avec un nouveau champion, ça redynamise une KT qui en avait besoin.
Ouais, exactement. Moins de 93 kilos, donc c'était le co-main et le main event. On a fait un petit peu différemment aujourd'hui. On a fait l'intégralité de la carte et on termine par le combat principal avec donc Carlos Hulberg contre Jiří Procházka. Ouais. Ce combat-là,
incroyable.
Ce combat-là, c'est pas sûr qu'on voit des situations comme celle-ci plusieurs fois dans. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si on a déjà vu ce genre de situation.
Moi, je me rappelle de Robbie Lawler qui met KO Melvin Manoeuf.
Ouais.
Alors qu'il se fait éclater la jambe sur les low kicks. Mais vraiment, il a plus de jambe, il est sur une jambe en fait. Et il envoie une patate de l'espace et Manoeuf il dort.
Ouais, assez fou, on voit.
Parce que là, c'est pour un titre.
Ouais, là, c'est pour un titre. Et puis les circonstances sont différentes parce qu'on a parlé de pitié. On a parlé c'est ça qui est assez fou en fait.
Qu'il y a pas de pitié,
cette dimension mentale qui a Procházka aussi, ce côté spirituel et un peu mystique qu'il y a autour de Procházka. On rappelle le scénario. Donc, première reprise, rapidement. C'est Hulberg qui réussit quand même à être plus agressif. Ouais. On sent que ça va faire mal et qu'il va réussir à amener le combat un petit peu là où il veut, même s'il y a un Procházka qui répond bien. Et puis, assez rapidement, sur il y a un appui qui retombe et il se fait mal au genou. Il y a des ralentis qui sortent juste après de ça. On voit que Hulberg, il se fait mal au genou. Il repose ses appuis. On sent qu'il y a des gènes, il y a des douleurs. Et finalement, on sent que cette gêne et cette douleur va carrément, bah, à un moment, on se dit, c'est bon, il va abandonner, il va tomber par terre, il va mettre les bras devant la tête pour dire à l'arbitre, stop, arrête le combat, je peux plus. Et finalement, il tient. Donc, il y a déjà cette capacité mentale à se dire, allez, vas-y, on sait jamais ce que je peux faire, je vais rester dans le combat et je vais essayer de tenir tant que mon genou, il tient. Les appuis sont pas bons, il arrive plus à envoyer grand chose. Et puis, là, on se dit, et effectivement, c'est ce que tu me disais juste avant d'enregistrer le podcast, tu me disais, mais là, moi, je suis son coach. À Prochaska, je lui dis, mais tu tabasses le genou. C'était la jambe avant, en plus de Hulbert. Et il n'y avait pas de changement de garde, etc.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'éclate le genou de la jambe arrière. Donc, c'est la jambe droite où le genou pète. Le problème, c'est que tu as besoin d'être sur tes appuis pour pouvoir bloquer les low kicks qui viennent sur ta jambe avant. Donc, c'est encore pire que ça, Charles. Parce que sa jambe droite, elle est foutue. Et sa jambe gauche, Prochaska, il est en train de lui faire un boulot. Donc normalement, dans 30 secondes, t'as ni jambe droite ni jambe gauche en fait.
Rien.
C'est pour ça que oui, à sa place, il faut bombarder la jambe avant. La jambe droite, elle est plus loin, donc c'est un peu plus difficile d'aller la chercher. Mais la jambe, t'as juste à lui tabasser la jambe avant. Et
mais en plus, on le disait dans la preview, mais c'est un kicker qui est Hulbert contre un mec du Muay Thai.
Ouais.
Donc en Muay Thai, il sait faire.
Mais bien sûr,
il sait faire. Venir casser les appuis, envoyer des jambes, il sait le faire. Et en fait, donc ce qui se passe, c'est que on sent que Prochaska, tu sais pas trop ce qu'il veut faire. Parce qu'à un moment, il fait la convocation en mode Max Holloway. Tiens, viens ici, on se tape, on se défonce, on y va. Alors qu'il voit qu'il est blessé, il suffit juste sincèrement. Il a une allonge assez, assez grande pour pouvoir rester à distance, etc. Et puis, il suffit d'envoyer, de tabasser le genou. Et puis, à un moment, il va tomber. Ouais. Et il n'y aura pas d'autres choses qui vont se passer que ça. Et finalement... Et bah, il en parle derrière, il y a un petit peu de pitié, il se dit mais attends, je vais pas terminer le combat comme ça, c'est un peu triste, c'est un peu si. Et là, c'est là où ça souligne aussi le KO power de Hulbert, parce que ses appuis ne sont pas bons, parce qu'il peut plus vraiment s'ancrer sur ses appuis. Et pourtant, sur ce crochet assez court là qui passe, qui vient terrasser Prochaska, Prochaska qui est envoyé au sol, un peu de ground and pound et le combat est terminé. Hulbert est champion de l'UFC.
Exactement. Il y a eu à la fois de la force de frappe, mais surtout de l'intelligence, parce que tu regardes la séquence et tu vois que par deux fois juste avant, il le calibre le crochet du gauche, en train de reculer. Il le calibre, il prend ses repères, il monte les mains, il le calibre une première fois, il se dit ça peut peut-être passer, il le calibre une deuxième fois en mode ça va passer. Et donc, il va monter les mains pour lui envoyer le crochet du gauche, exactement comme Adesanya Mikao Pereira dans sa revanche, le seul combat d'ailleurs qu'il gagne contre Poatan. C'est la même séquence. Il monte les mains, il attend l'ouverture, il envoie une patate, sauf que lui, il n'était pas blessé, mais il était quand même touché. Il prenait des genoux, il prenait des crochets, etc. Donc, intelligence de combat, tu sens qu'il s'était bien préparé, qu'il avait aussi identifié certains défauts de Prochaska sur son excès d'agressivité et sa gestion de la distance, et donc ça touche et ça met KO, et il a fait la chose qu'il devait faire. Donc magnifique manière de devenir champion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prochaska qui te parle de pitié, j'essaye de faire... Alors, s'il n'avait pas répété derrière à froid, je ne serais peut-être pas aussi dur que ce que je vais être là dans une seconde, parce que j'aime pas les interviews à chaud, tu viens te faire mettre KO, Rogan qui arrive avec son micro sous le nez, qu'est-ce que t'en penses? L'autre, ouais. Il a ses neurones qui sont encore par terre, tu doutes bien qu'il ne va pas dire des choses qui sont lucides, en tout cas qui viennent de la lucidité. Donc lui, il dit qu'il a eu pitié, il le dit une première fois. Et ensuite, il le redit plus tard. Il le redit plus tard sur ses réseaux, quand il est à froid, il le redit même, je crois, ce matin encore. Et là, et c'est là où ça me dérange. Et là, ça me dérange, ça va déranger ses coachs. C'est du combat, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a aucun cadeau à faire. Si tu fais des cadeaux à l'adversaire, tu te retires des cadeaux à toi. C'est un sport... Il y a d'autres sports où tu ne peux pas en faire. Je me souviens qu'Armstrong avait dit ça sur un Tour de France à l'époque. Mais là, c'est le combat. Les conséquences, elles sont terribles parce que les conséquences, elles font que tu dors. Les conséquences, elles font que tu perds tes neurones. Et les conséquences, elles font que tu ne vas pas devenir champion alors que tu aurais dû l'être, que tout le monde t'attendait. Tout le monde est fan de Prochaska. Je voyais des gens sur les réseaux sociaux. Je pense à Jawen notamment qui ne veut même plus tweeter. Mais les gars, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il avait combat gagné. Il fallait juste terminer le boulot. Il pouvait le faire. Même en étant prudent, en plus, il pouvait le faire. Même si ce n'est pas Prochaska. Mais là, il a clairement déconné. Et si j'étais l'un de ses coachs, je sais même pas quoi lui dire, tellement je suis énervé.
Tu lui aurais dit quoi? Sortant de la cage, tu lui aurais dit quoi? Premier mot que tu dis à ton gars alors qu'il avait le combat gagné et qu'il perd, il perd un titre à l'UFC.
C'est très dur à dire à ton élève. C'est très, 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 très dur à ton élève, surtout à chaud parce que tu dois le réconforter. Donc... tout de suite en sortant de la cage, je crois pas que je vais lui
parler.
Tomber dessus comme ça tout de suite parce que c'est dur. Il y a des coachs qui le font, c'est peut-être dur, mais franchement, en analyse derrière, lui dire tu peux t'en prendre qu'à toi-même et tu me parles de pitié là. Enfin, tu te rends compte de ce qu'on a investi dans le camp d'entraînement, du temps, de l'énergie, de l'argent, de tout ce que tu veux. Non, et toi, tu me parles de pitié.
En fait, de la pitié que lui a eue pour Hultberg, c'est nous qui en avons pour lui. Parce qu'en plus, ouais. tu te dis, mais quelle tristesse, sa femme est enceinte, elle va accoucher d'ici une semaine. C'était un peu l'objectif d'une vie, parce qu'on parle de combattant mystique, lui c'est le number one.
C'est lui qui
te sens que c'est-à-dire qu'avoir la ceinture, ça vient récompenser un truc très spirituel en plus d'un truc
t'as
sportif.
T'as voix du Bushido, tout ça, j'entends, il y a un code, mais...
Je pense que la marque, alors lui après dit aussi au micro, on apprend à parler des fêtes, et c'est grâce... Mais bon, voilà, je pense que ça va être très compliqué de s'en relever.
C'est dur.
Et puis, il pleure au micro de Joe Rogan
ouais,
derrière.
Lui aussi, il faut qu'il apprenne à mettre fin à des interviews. Mais
je sais que Taylor, ça, il a un peu de mal avec les interviews des bras dans la cage.
Ah, il saoule.
C'est vrai que ça, il faut... Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller interviewer.
Si un mec qui s'est fait mettre KO, pour moi, jamais, déjà.
Ouais, en plus, déjà. C'est ça. Ouais,
pour que ce soit bien clair, pour moi, jamais.
Pourquoi aller s'exposer devant la salle, parler d'un truc que tu
C'est un mec qui vient de prendre une commotion. On va pas donner pas le micro à un mec qui vient de prendre une commotion. Je te fais un parallèle ultra large. Accident de la route, le mec, il se relève. Comment ça va, monsieur? Bah, je sais pas, j'étais dans un accident de la route, en fait, j'en sais rien.
Ouais.
Non, c'est ça. Jamais bon à faire. Et puis là, écoute. Une phrase, si tu veux avoir une phrase, ok, pourquoi pas. Là, t'es en train de lui faire un podcast, le mec...
Puis en plus de ça, c'est là où ça continue dans le côté, on réutilise le mot pitié, parce que c'est le mot qui a été utilisé autour de ce combat. La salle se vide derrière, lui il est debout, il arrive pas à parler, Joe Rogan sait pas trop quoi lui dire.
Enfin, il pleure,
cette séquence, elle est vraiment pas géniale. Ça se termine très très mal pour Yair.
Et c'est tellement un bon gars, tu veux que être fan de ce mec, parce qu'il y en a pas, malheureusement on est mal servi en MMA. Il y a beaucoup de, pardonne-moi l'expression, il y a beaucoup de connards. Donc de voir un mec comme ça, tu veux que être derrière lui, tu ne veux que sa réussite. C'est aussi pour ça que je suis dur avec lui, parce que il le sait, il combat depuis tellement longtemps, il sait qu'il n'y a pas de place pour la piste, c'est le combat. Le mec qui va frapper, qui va se péter le tibia en deux, Anderson Silva, évidemment que tu ne vas pas aller lui sauter dessus et célébrer derrière, non, là c'est la place pour de la pitié, pour de la bienveillance, etc. Par contre, là, tu n'as pas terminé le combat. Après le combat, termine-le, va le voir tout de suite. Va le voir tout de suite et montre justement ton respect, ta bienveillance. J'ai vu que tu t'es blessé. J'ai pas le choix. J'étais obligé de te terminer. Et ensuite, on est ensemble, on est poteau si tu veux. Mais dans l'action elle-même, il faut être froid parce que c'est du combat. C'est toi ou c'est moi en fait. Et si je suis dans ton coin, bah, je te dis c'est toi. C'est pas lui, c'est toi. Donc fais ce que tu as à faire pour terminer le combat.
Ouais. Fin très spéciale. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir, mais ce coup, est-ce que tu sais ces interviews d'après combat sur le perdant, c'est pas Conor McGregor quand il perd contre Poirier qui s'est fait la cheville, tu sais, et là il parle de sa femme, etc. C'est le pire flop, mais est-ce que ça a pas mis un update? Parce qu'on ne le voyait pas tant que ça avant, j'ai l'impression d'aller...
Joe Rogan, je vais toujours reprocher, moi, perso. Mais ça fait quand même longtemps. Maintenant,
qu'il
vient de nous rappeler ce moment. Mais
il est terrible. Ah non, mais en plus, il y va, mais il parle sur la femme.
Il s'assoit à côté de lui, il tend le micro, l'autre il parle de sa femme, et il continue avec un sourire. Ouais, super, Joe.
Mais bon, j'ai pas l'impression qu'on interviewait beaucoup les perdants avant ça. Je sais pas.
Ouais,
j'essaie de
moi, je sais que ça fait longtemps que je reproche, comme ça,
mais,
cas, donc,
mais bon, ça c'était.
Il y a d'autres fois avant.
Mais ils le font souvent maintenant.
Mais voilà.
Après, il y a plusieurs trucs. Si c'est une décision et que c'est un ancien champion, limite, tu allez, là, bon, c'est un ancien champion.
Prochain
cas, mais là, il se fait mettre.
Moi, ça me gêne quand le mec se fait mettre KO. Ça me gêne que tu viennes lui mettre un micro alors que le gars, tu sais qu'il est pas lucide. T'as besoin d'aller t'asseoir dans le vestiaire. Mais tu sais, le combat, c'est dur. J'ai vu des choses. Je vais te parler de Brice Guidon un jour, il a fait un tournoi, il a même pas pris un KO. Je sais pas s'il nous écoute Brice, mais je lui passe un grand bonjour. Dans le sud de la France, il fait une guerre, mais pas possible. Il sort du ring, c'est plus parler en français. Il parle en hollandais. Tu te rends compte? Le combat, c'est des dingueries. Tu vas avoir des choses folles dans les vestiaires. Tu vas devoir expliquer à un mec, t'es dans quelle partie du monde, il est quelle heure, on est quel jour, et qu'est-ce qu'il vient de faire il y a 5 minutes. On en est là. Et je t'ai déjà expliqué, moi, Charles, qu'il y a un combat, je me rappelle pas du premier round, je me rappelle pas de rentrer dans le ring. Je me rappelle pas en fait. Je me rappelle de l'eau sur ma gueule. Et qu'est-ce qui se passe? On est où? Le mec, il t'explique, tu viens de faire un premier round, tu t'es fait compter.
Peut-être comme Patrick Cabiroa et Boris.
Ils
se souviennent de rien.
C'est marrant, ça fait plus de 20 ans. C'était en avril 2006. Bah, tu vois.
Mais au moins 20 ans après, tu t'en souviens.
Non.
Non,
je me rappelle pas du round. Je me rappelle de ça, quoi. Mais c'est tout.
Donc, tu te rappelles de plus te rappeler.
Exactement.
C'est déjà bon signe.
C'est terrifiant. Donc, non, faut pas. Pour moi, faut pas blaguer avec ça. Et il faut. Voilà, il faut redevenir un peu plus rigoureux par rapport à ça.
Ouais, bon, ça va, le cerveau n'a pas été trop endommagé. On rappelle, là, tu viens ici quasiment à chaque fois sans aucune fiche, donc ça, tout est stocké dans la tête. Donc c'est peut-être que ça a servi de remettre des choses en place.
Parce que moi, je le dis toujours, en toute franchise, ça m'a tellement terrifié que j'ai arrêté.
Ouais. Bon, on verra si Prochaska, moi j'ai hâte de voir juste comment il va digérer ça, parce que lui qui est justement assez profond comme mec, est-ce qu'il va tellement intérioriser tout ça, ça va tellement le marquer, il va tellement être traumatisé, ouais. Parce que concrètement, t'en fais des cauchemars de ce combat-là. Tu te prends un KO alors que c'est toi qui avais juste à envoyer 2-3 kicks comme si t'étais un sparring, mais lambda, c'est-à-dire que c'était le mec le moins dangereux face à toi.
Imagine, il ne devient pas champion derrière, il va le regretter le reste de sa carrière.
Il délaisse sa garde, il y a tout qui se délite un petit peu, et voilà. C'est un gros manque de professionnalisme quand même de pas savoir gérer ce genre de situation
c'est terrible pour lui, ouais. et un énorme coup de chapeau à Hulberg qui a su tirer profit de la situation et qui a une énorme vous savez quoi
ouais. Quoi ? Je vois pas du tout.
Paire de coups de poing.
Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Et ça souligne encore une fois le KO power qu'il a.
Ouais, c'est clair.
Parce que réussir sans appui, tu pourras le confirmer, j'imagine, mais sans appui à mettre ce coup-là.
Avec le doute dans la tête, tu vois.
Et puis parce que revoyez, moi, c'est pour ça, dans ma preview, je voyais quand même beaucoup. J'avais mis Prochaska parce que j'avais ces souvenirs de Hulberg et de Rountree qui lui fonce dessus, qu'envoie des crochets hyper larges, avec bien ancrés au sol, etc., qui ne tombent pas. Et là, il tombe il y a la précision aussi mais le relâchement qui est appliqué. Et donc la force mentale de rester dans le combat et d'être aussi relâché à un moment où tu dis tiens, j'ai peut-être une petite ouverture, ça prouve que c'est un grand combattant et donc il mérite cette place et cette ceinture. Donc Carlos Hulberg, désormais champion chez moins de 93 kilos à l'UFC. La suite pour cette catégorie, d'après toi Baba, qu'est-ce qui va se passer? Hulberg, désormais champion, Ankalaev, un petit peu dans l'antichambre, qui va rester challenger numéro 1, ça devrait être lui. En même temps, il reste sur une défaite. Il y a Rountree qui est encore pas très loin. Qu'est-ce qui va s'articuler? Comment ça va se passer?
Moi, c'est très clair. Pour moi, tu fais Hulberg, Ankalaev et tu fais Prochaska, Rountree 2.
Donc tu laisses ces mecs-là, par exemple, est-ce qu'un Costa, il pourrait pas arriver très vite dans une discussion?
Ouais, mais pour moi, il faut lui donner un autre gars, tu vois, pour montrer qu'il est bien installé dans la KT. Et puis ensuite, peut-être que tu lui donnes une chance pour le titre. Il faudra voir comment Whittaker se comporte quand il monte.
Ouais.
Mais moi, je pense que tu fais ça. Ces quatre-là, pour moi, ils doivent encore le faire. Hulberg, il doit prendre Ankalaev. Ankalaev, il mérite une chance pour le titre. Certes, il a perdu contre Poatan, mais il l'avait battu. Donc actuellement, sur le papier, lui et Hulberg sont les meilleurs combattants de cette KT. Et Prochaska, Rountree, franchement, ça fait sens. Tu fais une revanche d'un très très bon combat. Sauf que cette fois-ci, tu le fais en 5 rounds, tu le mets en main event de quelque chose, d'un fight night, j'en sais rien.
Ouais.
Pour avoir 5 reprises de ce combat-là et pouvoir déterminer ensuite ce qui se passe.
De toute façon, c'est simple, dans cette catégorie, tu peux pas intégrer beaucoup d'autres mecs parce que derrière, il y avait Mirzakhanov qui allait arriver dans cette discussion-là, mais il a perdu contre Costa. Costa va le remplacer à cette place-là. Donc là, on est lundi, donc les classements vont être updatés demain. D'ailleurs, c'est encore Alex Pereira qui est le champion pour l'instant de cette catégorie-là. Mais en fait, dans le top, il y aura Carlos Hulberg qui va passer champion. Je pense qu'Ankalaev va rester contender numéro 1 parce que Pereira, ils vont le virer de la catégorie. Ils vont le sortir. Et derrière, je pense que Prochaska va rester numéro 2 et que Rountree va passer numéro 3 à la place d'Hulberg actuellement. Donc ça fait un champion Hulberg, un Ankalaev, deux Prochaska et trois Rountree. Ou alors tu passes Rountree devant Prochaska parce que Prochaska a perdu.
Ouais.
Mais derrière, les mecs, c'est Błachowicz, il y a Mirzakhanov qui a perdu, il y a Jamal Hill, il y a Guskov, il y a Özdemir, il y a Reyes qui va peut-être gagner quelques places aussi, Rakic et Johnny Walker. Mais donc la discussion, elle se fait que avec les quatre noms de la cité. Il y a Costa, il lui faut une victoire de plus et il vient dans la discussion.
Parce que
Reyes, s'il avait fait un gros truc, il est 10 pour l'instant, s'il avait fait un gros truc contre Walker, il va gagner une, deux places.
Peut-être même qu'il va juste rester à sa place.
Il n'y a pas beaucoup d'articulation de solutions possibles.
Non, c'est pour ça. Pour l'instant, tu as le top 4-5 et tu as le reste pour l'instant.
Catégorie peut-être la moins excitante du coup à l'UFC actuellement. Est-ce que Hulberg vient redynamiser, vient redonner un peu de couleur à cette KT pour toi?
Pour moi, il est déjà bien intégré à la KT, il a déjà battu les mecs et tout, donc il est déjà identifiable, donc c'est bien d'avoir un nouveau champion, mais ça redonne pas plus de couleur que ça. Encore une fois, des montées qui sont intéressantes et il faut du sang frais. Donc peut-être que d'autres middleweight vont suivre l'exemple de Whittaker et Costa, surtout en ayant vu Costa gagner. Et peut-être que là, ça va redynamiser la KT. J'ai juste un petit mot à dire avant le générique, par contre.
Bien sûr.
Si on a fini.
Je t'en prie, bah ouais. Si moi je suis bon sur l'UFC 327, okay. Évidemment, t'as la parole.
C'est très triste, malheureusement, ce que je vais dire. C'est beaucoup moins bon enfant. Mais pendant qu'on faisait l'épisode, je viens d'apprendre que l'un de mes collègues coach qui se battait contre la maladie est décédé. Il s'appelle Mustapha. Donc je voudrais lui rendre un grand hommage à lui et à mes collègues coach du Temple Noblard. Il était avec nous. Et à son grand ami Alex Ngomprizo, qui est une figure du Muay Thai en France. Voilà, donc beaucoup de tristesse de recevoir ce message, même si malheureusement on savait que c'était compliqué. Donc un gros big up à lui, à toute sa famille, que son âme repose en paix et que toute la famille du coaching en France, en tout cas, est avec vous et se tient à ses côtés et honorera sa mémoire à Mustapha.
Mes condoléances, Baba, du coup, d'apprendre le décès de ton ami et du coach. Et donc, évidemment, on espère que la communauté des coachs en France et du AMC Fighter Club est avec toi dans cette épreuve. Baba, on pense à toi et on pense évidemment à lui et à sa famille. On lui rend hommage dans cet épisode du AMC Fighter Club.
C'est pour lui.
Et au Temple du Noblard, du coup, qui doit être très affecté aussi, cette salle parisienne dans laquelle tu travaillais avant, où tu te rends encore régulièrement, je crois, pour t'entraîner.
Ouais, j'y vais de temps en temps. J'y vais de temps en temps. Voilà, je vais les voir, les gars.
Si vous voulez croiser Baba, vous pourrez aller croiser les gants avec lui.
Yes.
Gros hommage à Mustapha, du coup, et on se joint à ta douleur, Baba.
Merci.
Bon. On termine sur une note moins gaie, mais bon, forcément, on essaie de garder le sourire.
Il faut la vie continuer, Mustapha, c'était quelqu'un de souriant, donc on continue et on est bien, on est avec lui.
Grosse pensée à lui et à sa famille, à toi, Baba. Je te remercie en tout cas d'être resté dans l'épisode quand même d'avoir continué ce débrief parce que ça reste assez léger, hein, même si on parle de pitié, on parle de tout ça avec Chaska, ça reste sport, ça reste
c'est que du sport, la vie derrière,
de l'entertainment aussi, donc la vie se passe à côté. Je pense que Prochaska, c'est ce qui peut l'aider, il y a son enfant qui
il y a son enfant
aussi.
Qui arrive, il a donc, de belles choses pour lui de se refocus. Voilà. Comme il a dit, il va être témoin du miracle de la vie. Et c'est ça le plus important. Vivez, prenez soin de vous, visitez vos proches et tout ce qu'il faut parce que la vie, ça passe vite.
Ouais, exactement. Voilà, Baba. Bon, on te remercie.
Merci à toi.
Grosse force à toi et à tout le monde. Merci à Arthur Robert qui était aujourd'hui en régie. Et on se retrouve très vite pour le AMC Fighters Club.
Très très vite.
Ciao, Baba. Merci.
RMC Fighters Club.